Good Morning Business, le débrief de la matinale.
8h36 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Le débrief ce matin, c'est avec Stéphanie Hospital, fondatrice de One Ragtime, avec Emmanuel Le Chypre et avec Jean-Marc Daniel. On va commencer avec l'attractivité. La France, toujours en tête en Europe, 1194 projets. La France conserve son titre. On était tout à l'heure avec Marc Lhermitte, associé EY. Écoutez ce qu'il nous disait.
On a gagné la bataille en Union européenne contre Francfort, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg. En revanche, Londres reste toujours le centre financier de l'Europe et un des grands centres financiers mondiaux. Il s'est créé dans trois secteurs importants. L'industrie financière, le digital, mais aussi quand on regarde les sièges sociaux européens, donc ces trois familles-là, le Royaume-Uni, et c'est le Grand Londres principalement, fait deux fois mieux que la France. La loi attractivité financière, la loi simplification aussi, sont des réponses. Probablement qu'il en faudra d'autres d'une autre ampleur, mais c'est un premier pas important.
Jean-Marc, nous on a sorti les tambours, les trompettes en disant c'est super, une bonne nouvelle, on prend tout. Vous vous dites non, ça c'est pas une bonne nouvelle.
Non, je n'arrête pas de le répéter. D'ailleurs, on avait fait un débat avec Arnaud Montebourg, nous étions d'accord sur le diagnostic. C'est-à-dire sur le fait que la France qui n'arrive pas à vendre, qui ne travaille pas assez, est obligée de se vendre. Donc elle va chercher systématiquement, comme elle dégage pas assez d'argent pour assurer son train de vie, elle va chercher systématiquement de l'argent à l'extérieur. Et en échange de quoi, elle crée des engagements futurs sur la génération à venir. Donc Arnaud Montebourg, lui, il était pour qu'on réoriente l'épargne française vers la France. Et moi, je disais, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut même faire en sorte que l'épargne française aille vers
ailleurs.
Le véritable problème, c'est que non seulement l'épargne française ne va pas ailleurs, mais elle n'arrive même pas à assurer les besoins de la France. Et on est obligé de faire appel à de l'épargne étrangère. Et donc, je pense que c'est... quand vous regardez d'ailleurs les autres pays, pour les États-Unis, quand on regarde les États-Unis vivent largement au-dessus de leur moyen. Et ils compensent ça par le fait qu'ils ont beaucoup investi à l'étranger. Mais vous regardez la balance des paiements courants des États-Unis, ce que rapportent les investissements américains par rapport au fait que de plus en plus de gens investissent aux États-Unis, ce que ça rapporte, ça n'arrive plus maintenant totalement à compenser le déficit commercial. Le déficit de balance des paiements courants est en train maintenant de se creuser par rapport au déficit commercial. C'est-à-dire que les États-Unis, à force de vivre au-dessus de leurs moyens, sont en train de se paupériser, de perdre leur souveraineté. Et donc, pour conclure, je trouve ça curieux que notre gouvernement, qui n'a plus que le mot souveraineté à la bouche, ajoute après l'attractivité. Je trouve ça curieux.
On a même un sommet pour ça. C'est 12 France. C'est le 13 mai.
Je trouve curieux qu'il y a 15 jours, sur ce plateau, on s'inquiétait de la vente de Biogarant à des Indiens. Et maintenant, on dit, mais c'est la même chose, c'est les Indiens qui achètent Biogarant.
Donc parce qu'on veut qu'ils fassent des investissements, qu'ils ouvrent des usines en France. C'est ça l'objectif, Emmanuel. Vous y voyez un truc positif, quand même.
Je mets au défi n'importe quel auditeur de comprendre ce qu'a essayé d'expliquer Jean-Marc, qui est incompréhensible.
Mais si, c'est très clair, les gens sont propriétaires de vos usines.
Très abstrait.
L'emploi, non, Jean-Marc.
Les gens pensent emploi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une espèce de raisonnement qui regarde à regarder les grands flux financiers et à dire finalement ce qui compte, c'est qu'on tire des revenus d'activités qui se font ailleurs et c'est très bien. Non, la réalité, c'est qu'on ne peut pas sous-estimer tout l'impact des investissements étrangers et de leur effet sur l'économie globale et qui est de l'argent qui reste en France. C'est-à-dire que quand vous avez une usine qui crée 50 emplois, vous savez que ça en crée trois fois plus dans le bassin d'emploi pour tout un tas d'activités qui sont des activités de logistique, etc. Ça, c'est de l'argent qui reste en France. La petite boîte du coin qui vient faire le ménage dans votre usine, même si elle est possédée par un groupe étranger, c'est de l'emploi et c'est de l'argent qui reste en France. Donc, je comprends bien son raisonnement à Jean-Marc, mais comme d'habitude, il est dans une exaltation
Il comprend.
J'essaye de mettre à la place de nos auditeurs tous ces raisonnements avec les balances.
Mais Jean-Marc, il pense plus.
Trucs,
il est plus etc. haut.
Oui, mais moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est important de générer de l'activité sur notre territoire et que la problématique de à qui ça appartient et à qui, in fine, ça rapporte de l'argent est quand même secondaire. Le Royaume-Uni qui s'est vendu comme personne, je veux dire, est quand même un pays qui aujourd'hui continue à avoir...
Il ne peut pas choisir son Premier ministre. Le Royaume-Uni qui s'est vendu, effectivement, quand il y a un Premier ministre qui dit « moi je vais baisser les impôts », comme il est vendu, on lui dit « non, vous partez ».
Les taux avaient explosé. Stéphanie, je vous donne la parole, mais juste avant, on va écouter Bruno Le Maire qui, à l'instant, vient de se féliciter. Lui aussi, Jean-Marc, ça vous désolé, de ces bons chiffres de l'attractivité française.
C'est pas la première fois.
Je pense qu'au bout de 5 fois, on peut reconnaître que ce n'est plus le hasard, c'est le résultat de la politique de l'offre qui a été menée par le gouvernement depuis 7 ans et que nous continuerons à maintenir parce qu'elle donne des résultats très concrets. C'est 40 000 emplois partout dans les territoires, partout dans les régions pour nos compatriotes. C'est des usines qui ouvrent, des usines qui s'agrandissent, c'est des perspectives de prospérité pour tous nos compatriotes. C'est ça que veut dire ce baromètre. Ça veut dire du travail et de l'activité pour tous les Français sur tout le territoire, et c'est le résultat de notre politique économique.
Alors, c'est des usines qui ouvrent et qui s'agrandissent. C'est surtout des usines qui s'agrandissent parce qu'en fait, quand on regarde les projets en nombre d'emplois, là, on est un peu en dessous, on est moins attractif. Et aussi, ce sont surtout des projets d'agrandissement. Il y a quand même des bémols, Stéphanie.
Alors, c'est des projets d'agrandissement, mais c'est aussi des nouveaux projets. C'est des centres de recherche, par exemple, dédiés à la R&D pour l'intelligence artificielle. On en a aujourd'hui plus de 25 en France. Donc, ça veut dire que les grandes entreprises de l'Internet voient la France comme l'endroit où on va pouvoir former et avoir les talents pour développer tous ces modèles sur l'IA. C'est donc très, très encourageant parce que ce qui veut dire, c'est que des usines, c'est pas encore des sièges sociaux. On voit bien... Le poids encore pris par Londres dans l'attraction pour les sièges sociaux.
Sur les sièges sociaux, c'est net, ouais.
Par contre, on travaille sur l'économie de demain, on travaille sur l'IA, on travaille sur l'économie verte, et tout ça, in fine, va aussi créer des entrepreneurs, parce qu'on voit bien, derrière ce regain que l'on a depuis 10 ans en France pour l'entrepreneuriat, aujourd'hui, les jeunes, ils veulent entreprendre. Et alors, c'est ça, moi, qui m'inspire beaucoup au quotidien.
Alors, Emmanuel. Le problème, c'est que finalement, quand on regarde tous ces chiffres, on se dit la France va pas si mal dans un continent européen qui va quand même pas bien. Mm. Et c'est ça qui est le plus préoccupant. C'est-à-dire que par rapport à ses proches voisins, la France, effectivement, s'en tire très bien. Et encore, je parle de l'Union européenne, parce que finalement, le Royaume-Uni s'en tire assez bien sur l'IA, sur la recherche, sur les sièges sociaux. Et c'est vrai que par rapport aux autres pays de l'Union européenne, on s'en tire bien. Sauf que quand vous regardez les investissements américains, c'est quand même sur 2 ans, on est à moins 30%. Donc ça veut dire que l'Europe, globalement, est en train de décrocher. Ça, c'est quand même extrêmement, extrêmement préoccupant. Notamment pour un sujet... Et quand on parle de réindustrialisation, c'est quand même un obstacle majeur. Alors, il y a toutes les problématiques de coûts salariaux, etc., etc. Mais il y a une problématique qu'il faut vraiment adresser, c'est le coût de l'énergie qui est beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'aux États-Unis et qu'en Asie. Et ça, c'est un véritable frein à la réindustrialisation, notamment.
Non, je voudrais juste, par rapport à ce qui a été dit, écoutez, tout ce qui a été dit est pertinent, mais ça n'a rien à voir avec l'origine des investissements. L'enjeu, c'est pas de savoir où sont les investissements, l'enjeu, c'est de savoir... qui les porte. Et donc, on peut avoir de l'IA en France, on peut avoir de l'énergie pas chère en France et des investissements en France, à condition que ce soit des entreprises françaises. Le véritable problème, c'est que les entreprises françaises ne sont pas là, parce que, effectivement, les entreprises françaises n'ont pas assez de moyens, n'ont pas assez d'épargne, et ont été obligées d'aller chercher de l'épargne à l'étranger. Monsieur Bruno Le Maire, que nous venons de voir, s'il veut véritablement faire une politique de l'offre, il a qu'à baisser les impôts sur les entreprises, comme il l'a annoncé, au lieu de se réjouir du fait qu'il va ruiner ses enfants.
La question des impôts, elle est quand même fondamentale, parce que tous les investisseurs étrangers disent on a besoin de stabilité fiscale, par pitié, ne changez pas les règles.
Mais les investisseurs français aussi. Les investisseurs qui ont vocation à investir en France, ce sont les investisseurs français. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand j'entends le PDG Total qui dit, bah, écoutez, dans les conditions dans lesquelles ça se passe, je vais aller à New York.
Alors, je pense qu'en 2024, on ne peut plus vraiment définir une entreprise française. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas comment on définit ce qu'est une entreprise française aujourd'hui. Est-ce que le plus important, c'est d'avoir des emplois qui sont créés en France grâce à des capitaux internationaux que l'on peut attirer, qui vont avoir un effet bénéfique, in fine, sur toute l'économie? Ou est-ce que c'est de se dire, non, je protège mon petit pré carré et je reste français? Moi, je crois que justement, l'Internet a ouvert les frontières et aujourd'hui, on cherche à attirer
les capitaux. Oui, mais Jean-Marc a raison. Quand on a Biogarant qui peut se vendre aux Indiens, on hurle au scandale. Donc, il y a un petit problème de cohérence.
Et le problème, ce n'est pas les entreprises françaises, c'est qui détient les entreprises? Est-ce que ce sont les Français? Parce que détenir une entreprise, c'est détenir un droit à obtenir un revenu. L'enjeu de la population française, c'est pas l'emploi en tant que tel, parce que sinon, la Tchécoslovaquie des années 60, c'était le modèle absolu, tout le monde avait un emploi. Les démocraties populaires avaient, tout le monde avait un emploi. Le véritable enjeu, c'est d'avoir du revenu. Et pour avoir du revenu, il faut y avoir effectivement un patrimoine, et ce patrimoine dans un pays qui en plus a une démographie qui est en train de s'effondrer, il faut aller le chercher à l'étranger et il faut pas au contraire céder son propre patrimoine à des étrangers.
Stéphanie, après on parle de la Fed.
Je crois qu'il faut faire les deux. Il faut investir dans des entreprises françaises et c'est pour ça que avec des One Rack Time par exemple, nous on est très très fiers d'investir dans des sociétés tech qui rayonnent à l'international avec beaucoup de capitaux français mais aussi des capitaux internationaux. Donc c'est ça notre rôle aussi, nous tous, c'est de pouvoir attirer ces capitaux. Et après, on a un effet de ruissellement. C'est quand on crée de la croissance, eh bien, on redonne, on fait du give back. C'est aussi ce qui se passe beaucoup aux États-Unis dans la tech. Hein. Les entrepreneurs, quand ils ont réussi, ils réinvestissent, ils créent un réseau d'angels qui vont soutenir des sociétés, leur apporter de l'expérience, du talent, mais aussi du financement. Bah, c'est toute la prochaine étape pour nous en France. Donc moi, je me félicite d'avoir des entreprises qui sont rachetées par des géants internationaux quand elles sont créées. Et ça, ça crée de la valeur future aussi pour nos enfants.
Mais il faut rappeler que les grandes boîtes françaises sont précisément celles qui tirent le plus aujourd'hui de revenus de leurs investissements à l'étranger.
Mais bien sûr.
Voilà.
Et ce qu'il faut favoriser, c'est l'investissement de nos entreprises à l'étranger et pas la vente de notre patrimoine à des étrangers.
Oui, sauf que le raisonnement de Jean-Marc, c'est celui qui a conduit au désastre industriel du début des années 2000. Hein. C'est le même discours que la France sans usine, etc. Ouais. Et le résultat, c'est qu'on a vu à quel point ça avait affaibli notre tissu économique et notre tissu social. Donc, c'est un désastre. Donc, dire on peut vivre, finalement, de revenus qui sont faits ailleurs.
Musée.
Voilà, donc
il n'y a qu'un seul point.
Il n'y a pas de honte, c'est pas infamant d'être conservateur de musée. Il y a encore un rapport du CEPI dont on a parlé à la librairie
d'abord,
d'éco.
Ce qu'oublie Jean-Marc, c'est que ce sont des revenus qui sont extrêmement concentrés dans les mains de très peu de gens. Donc tous les gens qui vont se retrouver sans boulot, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir du patrimoine, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais ça, effectivement, c'est pas le problème de Jean-Marc et c'est pas le problème des économistes.
Mais c'est le patrimoine du pays généralement. Et encore une fois, un pays qui a la démographie que nous avons est un pays qui a besoin de se préparer son avenir en investissant à l'étranger. On n'est pas dans la situation des États-Unis, on n'est pas dans la situation de l'Inde.
Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que de toute façon, on voit bien qu'il y a la problématique des revenus qu'on touchera d'un travail qu'on ne fera plus. Voilà. Et qui sera fait soit à l'étranger, soit par une intelligence artificielle. Mais la grande question, c'est pour ça que moi je dis qu'il y a une transition dont on ne parle jamais, qu'il faut absolument préparer, c'est la transition fiscale. Puisque si on a une IA qui fait le boulot à notre place,
bon,
il va bien falloir se poser la question de savoir comment on redistribue les revenus créés par cette IA. Et si on crée plein de revenus à l'étranger et qu'on ne travaille plus chez nous, j'essaye de conceptualiser ressembler ce pays dans 30 ans.
La question des revenus, elle est fondamentale sur l'intelligence artificielle. On en parlait justement avec Nicolas Godemey, qui est le directeur de l'intelligence artificielle chez OnePoint. On parlait justement de ces médias qui ont fait des accords avec Microsoft et OpenAI. Et puis ceux qui attaquent d'un autre côté la question des revenus, qui va payer? Écoutez sa réponse.
C'est des accords qui sont importants parce qu'ils vont permettre à des fournisseurs de modèles, enfin à OpenAI en l'occurrence, de pouvoir sourcer ces réponses dans du contenu d'actualité, ce qui va répondre à deux problématiques des modèles de langage. Le premier, c'est qu'ils ont tendance à halluciner des fois, et donc pouvoir sourcer ces réponses, c'est quelque chose qui va les aider à les rendre plus factuelles. Et deux, leur entraînement s'arrête à une date fixe. Et donc tout ce qui est récent, par définition, les modèles de langage ne sont pas au courant. Et donc pouvoir sourcer ces réponses dans des contenus d'actualité, ça c'est quelque chose qui peut les intéresser. Et ils vont développer des services en ce sens avec Le Monde, avec Prisa, avec Financial Times.
Donc la question des revenus et de l'intelligence artificielle, qui va payer, qui va faire des revenus pour l'ensemble de ceux qui travailleront moins, on se posait la question dans les médias. Stéphanie Hospital, on est toujours là avec l'intelligence artificielle, amis ou ennemis, les deux à la fois?
Non, c'est les deux à la fois, mais surtout, il faut que ceux qui produisent le contenu soient rémunérés. Donc c'est pour ça que les accords dans lesquels les journaux vont se faire rémunérer pour l'accès à leur contenu, c'est essentiel. Donc bravo Le Monde, bravo le New York Times, qui en même temps est en train d'attaquer pour avoir une meilleure négociation.
C'est comme ça qu'ils négocient.
Ça protège, et ça vaut pour toutes les industries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a qui est essentiel, c'est les données qu'on produise. Donc quand on met nos données sur ChatGPT, elles deviennent publiques. Il faut voir aussi que les ChatGPT et autres moteurs d'IA génératifs deviennent les moteurs de recherche de demain. Ils le sont déjà. On n'utilisera plus Google, on ira utiliser ChatGPT pour faire des recherches. On le fait déjà tous au quotidien. Donc ces données, il faut à la fois les protéger, donc créer des environnements privés pour les entreprises. On a par exemple une entreprise dans le portefeuille de One Ragtime et qui fait de la protection juridique. Bien, toutes les données qui sont liées à des réponses d'avocats, elles sont préservées parce que c'est ce qui va faire la valeur de cette entreprise dans les années qui viennent. Et si on les garde, on peut les monétiser, on peut les valoriser, on peut avoir de l'argent pour continuer à les développer. En revanche, si on les laisse être accessibles gratuitement, à un moment, la valeur se perd et ce sont ces gros acteurs de l'Internet qui, in fine, vont la monétiser. Donc ne refaisons pas ce qu'on a fait au début de l'Internet, quand on a laissé les moteurs de recherche indexer les médias, sans se poser la question à un moment de quel serait le modèle économique des médias.
Emmanuel.
Bah, la réalité, c'est qu'il y a énormément de métiers des médias qui vont être totalement balayés par l'intelligence artificielle, comme tous les métiers de ce qu'on peut appeler la création ordinaire, en fait.
Oui, mais ça c'est de l'efficience. Oui, donc les entreprises, à un moment, vont utiliser l'IA pour générer une meilleure efficience. Mais alors,
il va y avoir des conservateurs de musées, là.
Pour le coup, ça va quand même être d'une brutalité absolument phénoménale. Oui. Ce que j'appelle, moi, les métiers de la création ordinaire, c'est effectivement les journalistes de base, c'est tous les gens qui, par exemple, font dans les agences médias des campagnes de pub, des plaquettes publicitaires où on voit qu'aujourd'hui on demande 40-50 000 euros à un client alors que l'intelligence artificielle fait ça en quelques minutes. Donc ça, et puis ça va arriver très très vite, c'est que ça va être en quelques
semaines. Bah là il y a déjà Prisma qui travaille beaucoup avec.
On le voit déjà. Donc ça pose quand même encore une fois des défis absolument considérables en termes de. Non mais je suis assez fasciné par la France qui se dessine avec Stéphanie, Jean-Marc. En gros, on aura finalement une France qui travaillera presque plus, avec d'un côté des rentiers et puis de l'autre côté des gens qui tireront d'une façon ou d'une autre des revenus qu'on voudra bien leur allouer à partir des revenus générés par l'intelligence artificielle. Donc une sorte de revenu permanent d'un côté et des rentes financières de l'autre. Bon.
Et ça, Jean-Marc, ça vous inspire
quoi ? Non, mais qu'il y a un revenu permanent, il y aura effectivement un revenu permanent et c'est dans le débat, le revenu permanent. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. L'État-providence.
Un revenu permanent généré par l'État.
Par la production de richesse. Oui. Alors, il faut.
Mais c'est là où on revient.
L'intelligence artificielle va faire des gains de productivité, et donc elle va apporter de la richesse. Oui. Et il y aura un prix parce que effectivement, on vient de le dire, il va y avoir un prix. Ce qui est intéressant, c'est d'abord la détermination de ce prix va pas être exactement la même que dans l'économie traditionnelle. On va avoir beaucoup de formules d'abonnement, ce qui a déjà commencé. Vous payez plus vos communications téléphoniques, vous êtes abonné. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous êtes abonné. Il va y avoir des métiers qui vont disparaître, mais il y a un métier qui va apparaître. C'est la certification de la valeur des informations. Parce que quand vous faites un travail universitaire, vous faites une revue de littérature. Quand vous faites du travail de l'intelligence artificielle, on vous donne quelque chose. Mais on vous dit pas quelle est la source. Justement, par définition...
Ça, c'est les accords, notamment avec le monde
et l'intelligence artificielle, elle va brasser tout un tas de sources pour en tirer une moyenne, d'une certaine façon. Et donc, vous avez un problème de fiabilité des différentes sources qui sont utilisées. Donc, il va y avoir tout un travail de certification. Et la dernière chose qui est en avant, c'est que quand même, effectivement, c'est de l'information qui est derrière. Et donc, l'information, ça nous est très personnel. C'est quelque chose qui... Et donc, vous avez des problèmes de confidentialité.
Je voudrais dire à nos auditeurs, à nos spectateurs, que vous avez refusé tous les trois de parler de la FED parce que ce sujet ne vous intéresse pas.
Mais tout au long de la journée, sur l'antenne de BFM Business...
On veut investir. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des taux qui soient bas. Et on va commencer en Europe.
Ah, bah, des taux bas, c'est dommage, c'était le sujet. Il ne va pas les baisser,
Il y aura sur BFM Business toute la journée des gens beaucoup plus compétents que nous pour parler des taux de la FED.
Absolument. Notamment dans BFM Bourse tout à l'heure, à partir de.
Oui, on n'aurait pas été d'accord. Il ne faut pas des taux bas, il faut des taux d'équilibre, ce qui est totalement différent.
Eh bien, on refera ce débat, peut-être demain.
Mais alors, où est l'équilibre ?